émission expert, Bonjour la planète, Laura Jane Gauthier.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bonjour la planète, une émission en partenariat avec la fondation Good Planet et dans laquelle, un mercredi sur deux, à 9h, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un ou une invitée qui travaille à la préservation du vivant et de la planète. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir à mes côtés en studio Pauline Levexier. Vous êtes responsable communication et marketing chez Chiloé. Bonjour Pauline.
Bonjour.
À vos côtés, Mathieu Vitfoot. Vous êtes club leader chez Circulaire et Éco-Aventurier. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Et Jonathan Warrega, vous êtes responsable des relations presse de la fondation Good Planet et fondateur de Merci pour l'info Joe, une chaîne YouTube de vulgarisation des enjeux écologiques. Bonjour Jonathan.
Bonjour Laura Jane.
Merci infiniment d'être avec moi en plateau. Alors aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler de Chiloé, le média de référence sur la micro-aventure, de Zéro Mégot et du festival Chiloé qui aura lieu ce week-end à la fondation Good Planet. Mais avant, place à l'info.
Bonjour la planète, Laura Jane Gauthier.
À la une de l'actualité environnementale cette semaine, le changement climatique s'impose dans l'élection présidentielle américaine. Après plusieurs années de catastrophes écologiques, dont les énormes feux de forêt dans l'Ouest américain cette semaine, le changement climatique s'est pour la première fois imposé comme un grand thème de l'élection présidentielle aux États-Unis, sauf pour les républicains. Dans un contexte électoral bouleversé par la pandémie, le racisme, la délinquance et la police, les experts de l'opinion publique annoncent que les questions de transition écologique sont devenues des priorités pour un nombre record d'Américains, en particulier à gauche de l'échiquier politique. Le changement climatique n'avait jamais été auparavant l'un des sujets majeurs pour la base d'un des deux grands partis américains, dit Anthony Lazarevich, chercheur à l'université de Yale qui mène depuis 2008 des enquêtes d'opinion sur le changement climatique. Il rappelle que tous les candidats aux primaires démocrates, des plus à gauche aux plus modérés, étaient en faveur d'un retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat. Également à la une de l'actualité environnementale cette semaine, le Conseil d'État suspend la chasse à la tourterelle des bois pour la saison 2020-2021. Le Conseil d'État a suspendu vendredi la chasse donc à la tourterelle des bois, oiseau dont la population s'est effondrée en Europe, allant à la rencontre de la volonté du gouvernement. Le ministère de la Transition écologique avait pris un arrêté le 28 août dernier, autorisant le tir de 17 460 tourterelles, c'est très précis, en dépit de l'opposition de plusieurs associations, dont la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, qui a porté l'affaire devant le Conseil d'État. L'exécution de cet arrêté est suspendue, a annoncé le Conseil d'État dans sa décision. Selon un communiqué, le juge des référés note que l'espèce a diminué de près de 80% en 15 ans, que les experts recommandent l'interdiction de la chasse de cet oiseau sauvage et que le gouvernement n'a pas à apporter d'éléments permettant de justifier son autorisation. Et pour finir avec l'actualité cette semaine, transport, le coût de pouce vélo va être prolongé. L'opération qui aide à la réparation de bicyclettes va être prolongée jusqu'à la fin de l'année et dotée de 20 millions d'euros supplémentaires, avec pour objectif de dépasser le million de réparations, a annoncé lundi le gouvernement. Le coup de pouce, lancé en mai au moment du déconfinement par le ministère de la Transition écologique et solidaire, est un forfait de 50 euros, pris en charge par l'État et permettant de faire réparer sa bicyclette. Il a connu un grand succès avec 620 000 vélos réparés, grâce notamment à l'engouement pour le vélo en cette période de pandémie, notamment bien évidemment pour éviter les transports en commun et favorisé par de nombreux nouveaux aménagements. La fréquentation des pistes cyclables a ainsi progressé de 29% depuis la fin du confinement par rapport à la même période de 2019. Voilà pour l'info, je me tourne maintenant vers mes invités. Pauline Levexier, je rappelle que vous êtes responsable communication et marketing chez Chiloé et Mathieu Vitfoot, vous êtes club leader chez Circulaire et Éco-Aventurier. Pauline, on va commencer avec vous. Est-ce que vous accepteriez de nous parler de Chiloé et de sa genèse?
Oui, bien sûr. Alors, Chiloé, c'est un projet qui est né il y a 3 ans, qui a été créé par Ferdinand et Thibault, qui sont deux citadins qui ont eu la chance de vivre plein de belles expériences à l'étranger, partout dans le monde. Et quand ils sont revenus à une vie plus citadine, avec un train-train quotidien, des boulots assez prenants, ils ont eu envie de passer plus de temps dans la nature. Et ils ont lancé une newsletter qui partageait justement des idées d'aventure pas loin de chez soi, des bouquins inspirants. Et pourquoi pas aussi des idées de films ou de marques engagées. Et tout ça, c'était envoyé à une cinquantaine de copains au début.
Alors, donc Chiloé, ça a combien de temps aujourd'hui? Ça a quel âge?
Ça a un peu plus de 3 ans.
Alors Chiloé, en chiffres, très concrètement, ça donne quoi? Donc je parle évidemment de la communauté, je parle du nombre de guides vendus, je parle du nombre de personnes dans l'entreprise, etc. etc.
Ouais, alors effectivement, depuis 3 ans, le projet a bien grandi et de la newsletter, on a rajouté un site internet, on est présent sur les réseaux sociaux et ce week-end, on aura aussi un festival et à travers ces différents canaux de communication, on rassemble près de 100 000 micro-aventuriers qui nous suivent, qui lisent notre site, qui nous suivent sur nos réseaux sociaux. Et on a aussi vendu, oui, effectivement, le guide Chiloé Paris qui rassemble à peu près 200 idées de micro-aventures à moins de 2 heures de Paris. On en a vendu 10 000. Et on est aujourd'hui on est 9 à travailler sur le projet.
Alors, comment est-ce que vous définissez Chiloé? C'est un média, c'est une entreprise, c'est une association? Qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est un média, effectivement, et on est une entreprise. Aujourd'hui, on travaille majoritairement avec des marques ou avec des destinations touristiques qui en fait ont envie de promouvoir la micro-aventure chez eux et qui font appel à Chiloé pour ça, pour parler à notre communauté.
Donc ça, c'est, j'imagine, le business model, finalement. C'est comme ça que vous gagnez votre vie, c'est en faisant des partenariats avec des marques.
Exactement. Aujourd'hui, c'est notre business model, oui.
Est-ce qu'il y a d'autres sources de revenus ailleurs? Le guide, j'imagine, les ventes de guides.
Exactement, le guide qui est auto-édité. Pour l'instant, il n'y a pas encore de projet de le rééditer. Effectivement, on arrive presque à avoir écoulé tous les stocks. D'ailleurs, il y en aura. Les derniers stocks seront au Festival Chiloé ce week-end. Pour ceux qui n'ont pas encore leur guide Chiloé Paris, ce sera un peu l'endroit où vous pourrez récupérer cette pépite avant qu'elle ne devienne collector.
Est-ce qu'il ne sera pas reproduit derrière, rediffusé?
Alors, on ne sait pas encore. Il y a plein de projets, peut-être de Guide de France, peut-être de magazines. Enfin, en tout cas, on fourmille d'idées pour l'instant. Il y a pas mal de projets un peu sous le capot. On essaye de se concentrer sur les choses prioritaires. Mais ce n'est pas encore au goût du jour de le rééditer.
Alors, Mathieu, vous êtes évidemment à côté de Pauline. Quel est votre lien à Chiloé?
Alors moi, j'aime l'aventure et particulièrement la micro-aventure. Alors, mon lien, je pense que c'est ça. Ça m'inspire et en même temps, si ça me permet d'inspirer aussi, c'est bien.
Bah alors, merci beaucoup parce que vous me faites une transition toute trouvée. Ma question d'après, c'était c'est quoi une micro-aventure?
Alors, une micro-aventure, c'est une expérience à vivre près de chez soi dans la nature qui demande peu de temps et peu de moyens.
Et donc, très concrètement, ça ressemble à quoi?
Alors, si je dois vous donner des exemples un peu parlants, on a par exemple, près de Paris, aller chercher son bridmo à vélo. Donc l'idée, c'est qu'on prend son biclou, on part du canal de l'Ourcq, qu'on remonte jusqu'à Meaux. Et ça, en fonction du rythme qu'on y met, ça nous prend la demi-journée ou la journée. Et on revient avec une bonne tranche de bridmo. Soit on revient en pédalant à nouveau si on est un peu sportif, ou alors on prend un train et on revient à Paris comme ça, à Gare de l'Est.
Donc on y va en vélo, mais on revient en train.
Exactement.
Et qu'est-ce qu'on fait du vélo?
On peut le mettre dans le train, il n'y a pas de souci. Alors, en tout cas, pour ce train-là, ça ne pose pas de problème. C'est aussi un des sujets sur lesquels on aime bien titiller un peu la SNCF, parce que tous les trains aujourd'hui ne permettent pas de mettre leur vélo, et c'est un vrai sujet pour les vacanciers micro-aventuriers qui aiment bien se déplacer avec leur vélo. Mais là, je fais un peu une digression. Sinon, si je dois vous donner d'autres idées...
Une micro-aventure, c'est tout simplement une petite aventure et j'imagine qu'il y a une question de distance par rapport à chez soi, c'est-à-dire pas très loin de chez soi.
Pas très loin de chez soi. Effectivement, ça c'est dans l'optique de faire des micro-aventures tous les week-ends, même voire un soir de semaine, de prendre un canoë-kayak et d'aller dormir sur une île sur la Seine. On a un membre de la communauté qui a fait ça, qui a emmené des potes et ils sont revenus dès le matin, frais comme des gardons au boulot.
Mais on peut Donc aussi... Ça se fait même entre 2 journées de boulot.
Exactement. Et nous, on propose à il y a une super expérience qui s'appelle l'Astro Bivouac. C'est Stéphane, un mec assez incroyable, passionné, qui nous emmène bivouaquer et qui a tout le matos pour en fait observer les étoiles. Et donc, on s'en met plein les mirettes pendant toute une nuit. On bivouaque. Et alors, en général, c'est une courte nuit, mais on revient les étoiles plein les yeux le lendemain au boulot.
Donc, on est fatigué, mais c'est de la bonne fatigue.
Exactement.
Très concrètement, à qui s'adressent les micro-aventures?
Alors, c'est vrai que nous, notre public principal, c'est plutôt les Parisiens, les Franciliens, parce que ce besoin de nature, il est très présent chez les citadins, et particulièrement à Paris. Donc, on se rend compte que, en tout cas, c'est souvent un sujet qui touche majoritairement les citadins. En revanche, on peut en faire partout. Et c'est vrai que le terme micro-aventure, c'est un terme qui est assez fun, un peu marketing, pour parler de choses que font plein de gens partout en France, finalement. Et ils n'ont pas attendu qu'on appelle ça micro-aventure pour le faire. Mais en tout cas, nous, ce qu'on propose de faire avec Chiloé, c'est de le faire plus souvent, de lever tous ces freins et d'inspirer les gens à voilà, passer plus de temps dans la nature.
Vous parliez du terme micro-aventure, il vient d'où ? Est-ce que vous l'avez inventé chez Chiloé ou est-ce qu'il existait déjà ?
Alors non, on a repris ce terme de Alistair Humphrey, qui est un explorateur britannique qui justement a parcouru le monde entier en vivant des trucs très chouettes partout dans le monde et qui à un moment a eu envie de se poser chez lui pour redécouvrir son pays. Et qui a un peu conceptualisé ce terme de micro-aventure, notamment avec une dimension un peu écologique aussi derrière ça. Et c'est ce qu'on a repris.
Les ingrédients d'une micro-aventure parfaite, quels sont-ils ?
Alors, il y a plusieurs choses. Nous, c'est vrai que chez Chiloé, on aime bien l'idée d'itinérance, l'idée de mouvement, que ce soit à vélo, en randonnée, en canoë. De partir d'un point A à un point B, c'est plus le voyage que la destination qui est important pour nous. Et tout ça dans un objectif de vraiment déconnecter de son quotidien. On n'est pas tant, c'est pas si important d'être dans une notion de performance, même si le dépassement de soi, c'est toujours appréciable quand on revient après une micro-aventure et se dire qu'on a dépassé ses peurs, qu'on a testé peut-être une nouvelle activité. Qu'on a été surpris. Moi, par exemple, j'habite dans les Hauts-de-Seine. Enfin, mes parents habitent dans les Hauts-de-Seine et j'ai toujours connu la Seine un peu. Pour moi, c'était un peu mon repère. Et j'ai découvert cet été la Marne à canoë. Et je me suis rendu compte que je connaissais pas du tout ce coin-là et qu'il y a des trucs magnifiques à voir et que c'était à quelques kilomètres de chez moi. Et il y a une notion importante que je rajoute, même si on aura peut-être l'occasion de la développer, mais c'est aussi la notion de le faire en conscience de son environnement, de faire attention à laisser l'endroit où on a été bivouaqué aussi propre que possible et faire gaffe aux animaux, par exemple.
On va y revenir, Pauline Levexy, restez avec nous. Dans quelques instants, nous allons poursuivre nos échanges sur Vivre FM.
Bonjour la planète, Laura Jane Gauthier.
Sur Vivre FM, nous poursuivons nos échanges avec mes invités, Pauline Levexy, responsable communication et marketing chez Chiloé, et Mathieu Vitefoot, club leader chez Circulaire et éco-aventurier. Pauline, on continue sur Chiloé. Dans quelques instants, nous allons parler du festival Chiloé qui a lieu ce week-end à la Fondation Good Planet. Mais juste avant, je voudrais en apprendre un petit peu plus sur les valeurs de Chiloé et peut-être rappeler pour les gens qui viennent de nous rejoindre très rapidement ce que c'est que Chiloé.
Alors Chiloé, donc, c'est le média et guide de la micro-aventure en France, et nous notre job c'est de mettre tout le monde dehors. Donc l'idée derrière cette phrase c'est de permettre à tous les Français et notamment aux citadins de mettre plus de nature dans leur quotidien. Et nous, notre objectif un peu derrière tout ça c'est finalement en passant plus de temps dans la nature, on apprend à mieux la connaître pour mieux la protéger.
Il y a aussi un petit peu cette notion de sobriété heureuse hein, qui transparaît pas mal chez Chiloé. Est-ce que c'est une de vos valeurs ?
Oui, tout à fait. On aime bien ce terme chez Chiloé et on aime bien le terme de moins mais mieux. L'idée, c'est peut-être de sortir de ces modes de consommation un peu frénétiques et de mettre des modes de vie un peu plus raisonnés, un peu plus raisonnables. Et notamment chez Chiloé, ça passe par le fait de se rendre compte qu'on a des tas de lieux très chouettes à explorer près de chez soi et pas besoin de partir très loin.
Est-ce que vous avez des témoignages de personnes qui n'allaient pas du tout dehors, qui se sont mis à tester un petit peu vos micro-aventures et de l'impact que ça a eu très concrètement dans leur vie ?
Ouais, tout à fait, on en a plein, c'est assez chouette parce qu'on a une communauté qui est très engagée et qui à la fois partage ses propres micro-aventures et qui nous font aussi des retours sur, ce week-end on a été testé, on a fait le tour de Belle-Île à pied, moi qui vais tous les étés à Belle-Île, en fait j'ai redécouvert mon île à travers une manière différente, ou des familles aussi qui souvent se posent la question de comment partir à l'aventure avec leurs kids et qui ont trouvé quelques clés, quelques réponses à travers des idées de Chiloé, de l'inspiration, et qui reviennent de vacances complètement conquis, et des enfants qui en redemandent, même si parfois on a un peu du mal à se mettre à l'action, et en fait c'est possible.
Alors très concrètement, ça apporte quoi comme type de bénéfice une micro-aventure ? On revient inspiré, on revient rechargé, est-ce qu'il y en a d'autres ?
Alors, nous, on aime bien dire qu'il y a trois bénéfices aux micro-aventures. À la fois, il est écologique, parce qu'en fait, on va moins prendre l'avion, puisqu'on va un peu ouvrir les yeux sur les différentes possibilités qu'on a près de chez soi et en France. De fait, il va aussi être économique, puisqu'en général, quand on coupe le coût de l'avion, ça fait baisser aussi un peu le budget vacances. Et il y a tout un pan bien-être, santé, parce que passer du temps dans la nature, en général, ça réduit le stress. Le fait d'avoir une activité physique, en tout cas d'être en mouvement, pareil, ça va être bon pour le corps. Donc, c'est le trio gagnant.
J'imagine que chez Chiloé, vous êtes très sensible à l'environnement et aux thématiques et aux problématiques, bien évidemment, environnementales. Est-ce que c'est quelque chose que vous intégrez d'une manière ou d'une autre dans l'ADN, dans vos activités au jour le jour ?
Oui, tout à fait. Nous, c'est très important pour nous d'avoir un aspect un peu éducatif derrière les micro-aventures qu'on propose. Évidemment, l'objectif, c'est vraiment d'inspirer, de pousser les gens à aller passer plus de temps dans la nature, mais qu'ils le fassent en conscience. Et pour ça, voilà, on a notre code d'honneur du micro-aventurier qui va donner plusieurs clés, comme par exemple le fait de laisser un endroit dans lequel on a vécu une micro-aventure aussi propre, voire plus propre qu'on dans lequel, l'état dans lequel on l'a trouvé. Quand on va aller, par exemple, observer le brame du cerf, je parle de cette idée-là parce que c'est très cette saison, on va veiller à le faire sans déranger les animaux autour de nous. Et derrière aussi cette notion de micro-aventure, l'objectif, c'est un peu de redistribuer les flux, de faire en sorte qu'il n'y ait pas tout le monde aux mêmes endroits, ce qui, on le sait, est très néfaste pour certains lieux très touristiques qui en pâtissent beaucoup.
Donc, d'une certaine manière, l'une des missions aussi de Chiloé, dans ce que j'entends, c'est évidemment d'inciter au tourisme responsable.
Exactement, tout à fait.
Parce que c'est, j'imagine, ça pollue énormément, parce qu'on va tous au même endroit, on est tous influençables.
Voilà, exactement. Alors, avec Chiloé, on essaye vraiment de le faire avec un ton un peu décalé, de ne pas être moralisateur, parce que c'est super important que pour les gens, ça reste fun et qu'il n'y ait pas une notion de punition dans le fait de ne pas prendre l'avion, en tout cas de moins prendre l'avion. Mais effectivement, il y a une forme de responsabilité quand on est un média et qu'on incite à passer plus de temps dehors, à le faire en donnant les clés pour bien le faire.
Alors Jonathan, je vois que vous avez une question, n'hésitez pas, alors, allez-y.
Vous évoquiez, Pauline, le brame du cerf, vous disiez que c'était de saison. Est-ce qu'il y a des micro-aventures de saison en ce moment qui sont intéressantes à faire proche de Paris, par exemple ?
Alors on a tout un tas de... Alors déjà, la première micro-aventure, je ne vais pas louper cette perche, ça va quand même être venir au festival Chiloé ce week-end à la Fondation Good Planet. Sinon, effectivement, là, on a une soixantaine de micro-aventures spéciales rentrée, spéciales automne sur notre site, parce que c'est vrai que l'été indien, pour nous, c'est une saison particulièrement intéressante, parce que les gens reviennent de vacances. En général, ils ont un peu le blues, ils se demandent quand est-ce qu'ils vont pouvoir repartir dans la nature, alors qu'au contraire, avec la micro-aventure, c'est toute l'année. Et donc, on a le brame du
cerf. Des vacances.
Exactement. On va avoir le brame du cerf très bientôt. On a également la cueillette des champignons qui va arriver. Et sinon, on peut continuer à fond la randonnée, l'itinérance à vélo, le canoë et kayak. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va pouvoir privilégier tout un tas de micro-aventures près de chez soi, sur lesquelles on n'aurait pas forcément dirigé son attention pendant les vacances. Et ça, c'est très chouette.
Alors Pauline, vous êtes également venue nous parler du Festival Chiloé qui se tient justement ce week-end à la Fondation Good Planet au Bois de Boulogne. Est-ce que vous voulez bien nous parler de ce festival ? Qu'est-ce qu'on va y trouver ? Qui est-ce qu'on va y rencontrer ? Et dans quel type d'atmosphère ?
Oui, tout à fait. Alors le Festival Chiloé, vraiment, on l'a pensé comme un concentré de tout ce qui fait Chiloé depuis 3 ans. Donc l'objectif, c'est d'inspirer les citadins à travers un événement dans lequel on va pouvoir retrouver des talks, des conférences avec des aventuriers qu'ils aient fait de leur passion un métier ou alors qu'ils soient amateurs chevronnés. Ils vont pouvoir nous raconter leurs récits d'aventure, nous partager des clés pour partir plus souvent à l'aventure. On aura également une super librairie avec tout un tas de bouquins de nature et d'aventure. On aura notre BAM, le bar à micro-aventure.
C'est quoi un BAM ?
Alors le BAM, et votre cœur fait boum, c'est un endroit dans lequel on va rassembler un peu les pépites des ambassadeurs de la communauté de Chiloé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des groupes privés un peu dans toutes les grandes villes de France, des groupes Facebook avec lesquels vous pouvez vous inscrire pour justement échanger entre micro-aventuriers. Et là, on a invité tous les micro-aventuriers du groupe Chiloé Paris à venir partager leur expertise, qu'ils soient fanas de canoë, d'escalade, ou alors qu'ils soient très spécialisés sur une certaine région. Tout ça, ils vont pouvoir le partager à tous les festivaliers. On aura également un stand en partenariat avec le Vieux Campeur pour s'équiper et trouver la crème du matos outdoor. Et au-delà de ça, on va surtout pouvoir profiter des 3,5 hectares de verdure de la fondation de Good Planet, qui est un lieu absolument incroyable. Et en plus, la chance est avec nous, puisqu'il y a une météo de folie qui s'annonce. Et donc, quand on ne sera pas en train d'écouter une table ronde, qu'on sera en train de programmer sa prochaine micro-aventure au BAM, on pourra être tout simplement en train de chiller, boire une bière et profiter de cette bulle de verdure à 2 pas de Paris.
Alors, vous attendez combien de personnes et à qui s'adresse ce festival? Qui peut, si les gens nous écoutent et s'ils se demandent s'ils sont dans la cible, est-ce qu'ils sont dans la cible? Qui est dans la cible?
Bah, tout le monde est dans la cible, finalement, à partir du moment où vous avez envie de passer plus de temps dans la nature et que vous vous demandez comment faire ou que vous avez envie de prendre un bon shot d'inspiration de toutes les personnalités qui vont venir parler de leur passion pour la nature. Vous êtes les bienvenus. On attend à peu près, on a réduit un petit peu la jauge évidemment pour être Covid-friendly. Donc on attend près de 2500 personnes par jour.
Alors comme vous le savez, Bonjour la planète est une émission sur l'environnement. Est-ce qu'il y aura d'une manière ou d'une autre un lien avec les thématiques environnementales au festival?
Bien sûr. Alors d'ailleurs, ce sera le bon moment pour passer le micro à Mathieu. On a une table ronde qui s'appelle l'aventure, mais pas que pour sa gueule. L'idée, c'est de faire parler des aventuriers pour qui en fait mettent un projet, écologique ou en tout cas qui mettent du sens derrière leurs aventures. Et Mathieu interviendra notamment pour parler de son projet de zéro mégot.
Alors absolument, on va en parler dans quelques instants. Juste peut-être un dernier mot sur ce festival. Est-ce que les enfants peuvent y venir également, ou les animaux, les chiens, je ne sais pas?
Tout à fait. Alors les enfants sont les bienvenus. C'est un festival kid-friendly et on a réfléchi avec notre partenaire Nature et découverte à plein d'activités pour les kids. Ils pourront faire du yoga, ils pourront découvrir les arbres d'Île-de-France. Ils pourront s'initier à tout ce qui représente la nature à travers les contes. Donc là-dessus, ils seront servis. Et puis encore une fois, au-delà de ça, la Fondation Good Planet, ce sera un peu le lieu pour les faire crapahuter et les fatiguer pour le soir, être tranquille.
Merci beaucoup Pauline Levexy. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite sur Vivre FM.
Bonjour la planète, Laura Jane Gauthier.
Bienvenue sur Vivre FM. Nous poursuivons nos échanges avec mes invités, Pauline Levexy, responsable communication et marketing chez Chiloé, et Mathieu Vitfoot, club leader chez Circulaire et Eco-Aventurier. Je me tourne donc maintenant vers vous, Mathieu. Ma première question, elle est simple. Qu'est-ce que c'est qu'un éco-aventurier?
Eh bien, pour vous répondre, en fait, si je demande à ma petite cousine qui a 8 ans et que je lui dis... voilà, est-ce que tu veux regarder un documentaire sur les déchets plastiques? Je ne suis pas sûr que, un, ça l'intéresse vraiment, et deux, elle retienne grand-chose. Maintenant, si je lui pose la même question et que je lui dis, est-ce que tu veux regarder un documentaire? Et c'est l'histoire, en fait, de deux jeunes qui vont faire un tour du monde sur les solutions face aux déchets plastiques. Il y a peut-être un peu plus de chances que le côté aventure l'intéresse. Et du coup, c'est justement ça, une éco-aventure, c'est d'utiliser, en fait, une expérience personnelle et assez forte pour essayer de véhiculer un message sur l'environnement ou ce qui est lié peut-être à autre chose.
Alors l'exemple que vous avez cité pour votre petite cousine, il n'est pas pris au hasard puisque c'est quelque chose que vous avez fait et ça fait partie de la genèse du projet dont on s'apprête à parler. Comment est-ce que vous en êtes venu donc aux éco-aventures?
Et ben exactement, en fait, après mes études, j'avais un rêve d'enfance qui s'était, que j'avais oublié et perdu de vue et qui m'a rattrapé après. Avec mon cousin, on a décidé de partir en 2018, pédaler en fait dans 17 pays, 18 000 kilomètres, pour aller à chaque fois à la rencontre des solutions locales et de gens qui, au Mozambique, en Indonésie, au Brésil, avaient apporté des solutions concrètes face à la pollution des déchets plastiques.
Qu'est-ce qui se passe pour qu'un jour on se réveille et on se dit « je vais partir faire 18 000 km en vélo »
Et je pense que c'est vraiment le rêve d'aventure, le rêve de découverte, et de découverte dans ce cadre-là qui était à la fois de paysage, mais surtout humaine en fait. Et de se dire « je suis trop curieux pour rester chez moi ».
Et je crois que ça fait écho un petit peu à votre histoire, puisque vous me disiez en préparant cet entretien que vous avez vécu quand vous étiez jeune dans 5 pays différents. Est-ce que ça vous a donné finalement le goût du voyage, le goût de l'autre?
Je pense que ça m'a donné le goût de la rencontre. Et je pense que de là coule en fait le reste et en partie du coup de ce voyage. Après, mon cousin, lui, il a toujours vécu en France et il avait aussi cette envie-là. Donc je ne pense pas que ce soit que mon parcours, mais peut-être que ça a accéléré, oui.
Quel lien est-ce que vous faites entre l'aventure, au sens d'être vraiment dans les grands espaces, et l'environnement? Est-ce que c'est intrinsèquement lié? Est-ce qu'on peut ne pas être sensible à l'environnement quand on est aventurier?
Je pense qu'on est obligé d'être sensible quelque part parce que c'est un peu notre terrain de jeu. Donc de la montagne à la banquise, en fait, ce terrain de jeu, il évolue très vite avec le réchauffement climatique. Donc on est obligé d'être sensible à cette thématique. Après, de là à la porter intrinsèquement... Je pense que beaucoup qui ont vécu, peut-être comme moi un peu en partie, mais des défis ou des aventures dans lesquelles on se sent tout petit en fait. On sent vraiment une humilité quand on est tout seul sur un glacier, quand on est tout seul dans un désert en train de pédaler ou en train de nager dans un océan. On a vraiment cette connexion intrinsèque avec son élément et du coup une envie de protéger ce terrain de jeu en fait.
Donc forcément, ça sensibilise de manière extrêmement naturelle. Mmh. Alors vous êtes également venu nous parler de votre projet, un projet un peu fou, mais enfin j'ai l'impression que c'est une constante chez vous finalement, de partir sur des projets un peu fous. Vous êtes donc en pleine préparation de cet événement qui va avoir lieu le 31 mai. Il s'agit de descendre la Seine en nageant, tout va bien, de Paris à Deauville, sur, vous me disiez, 300 et quelques kilomètres, 360. Est-ce que vous voulez bien nous en dire plus ?
Tout à fait. Et bien, dans cette aventure, qui est un peu une nouvelle aventure, en fait, en rentrant de ce Tour du Monde il y a 2 ans, j'avais vraiment envie de continuer à vivre à la fois cet engagement environnemental, que je vis plutôt dans mon métier, et à la fois cet engagement sportif, cette hygiène de vie. Et donc, l'an dernier, en fait, en octobre, avec mon frère et ma copine, on a traversé le détroit de Gibraltar à la nage, qui était une expérience extraordinaire. Et puis on s'est dit de là, c'est quoi un peu la prochaine étape? On adore nager, on a envie de continuer. Et en même temps, Gibraltar, c'est un peu loin. Qu'est-ce qui approche de chez nous? J'habite Croissy-sur-Seine. Et dans Croissy, il y a Croissy, mais il y a aussi la Seine. Et donc, au pied de chez moi, je me suis dit, pourquoi je ne partirais pas de chez moi ou de Paris et je nagerais pas jusqu'à la mer? Donc au total, ça, c'est un nouveau défi. On a créé une association pour porter ce projet. Et l'objectif est de nager 360 km en relais pendant 6 jours et 5 nuits, à 4, en fait.
Ça fait nageurs. Combien de kilomètres, donc on va faire un peu de maths
Ça fait à peu près 90 par personne.
Sur combien de slots
Alors, c'est des relais d'une heure, en fait. Je nage une heure, je me repose 3 heures. Je nage une heure, je me repose 3 heures. Donc,
Dans la Seine, il doit y avoir des courants, j'imagine. Comment ça se passe?
Alors, on espérait compter beaucoup sur le courant. Il s'avère qu'en fait, il y a pas mal de pièges. Un des pièges, c'est que l'été, le courant est beaucoup moins fort qu'en hiver, ce qui du coup nous avantage un peu moins. Et ensuite, il y a un courant qui peut être contraire. Il y a 150 km de marnage, c'est-à-dire que la mer revient en fait dans la Seine. Donc parfois, on pourra nager à contre-courant et parfois très très vite aussi.
Au-delà du fait que vous habitiez à Croissy-sur-Seine, est-ce qu'il y a d'autres raisons pour avoir choisi la Seine comme terrain de jeu, notamment en lien avec l'aspect environnemental, j'imagine?
Tout à fait. Alors, 80% en fait, des déchets qu'on retrouve dans les océans viennent directement de la Terre, et particulièrement des villes. Et à travers en fait, ce parcours, pour nous, il y a une symbolique forte, et on parlera peut-être après du sujet du mégot. Mais pour nous, l'objectif, c'est de retracer le parcours du mégot, et en même temps d'apporter cette dimension locale, parce que pour nous, plus c'est local, plus c'est aussi facile d'engager les gens et de montrer concrètement comment un déchet, en fait, quel est son parcours, en le retraçant tout simplement à la nage.
Donc l'idée finalement, c'est de se servir de l'aventure, de la nage, etc., d'un événement un peu hors norme, pour occuper d'une certaine manière un petit peu l'espace médiatique, j'imagine aussi pour vous faire plaisir, et donc pour faire la lumière sur une cause, en l'occurrence là, le mégot et le déchet que représente le mégot. Est-ce que vous avez des chiffres sur la pollution d'un mégot, par exemple ?
Parfait, j'en ai un premier, c'est 500. 500 litres d'eau, c'est ce que pollue un mégot, donc c'est l'équivalent de 2 baignoires. Le deuxième, c'est 40 000 mégots chaque minute qui finissent par terre en France.
Chaque minute. Hein.
Chaque minute, 40
000. Bien entendu.
5 000 euros par jour, c'est le coût de collecte des mégots seulement à Paris, tous les jours. Et une seconde, c'est le temps que ça prend pour jeter son mégot à la poubelle. Donc, et ça, je pense que c'est un petit geste assez facile et pourtant qui peut faire une grosse différence.
Donc l'enjeu, quel est-il pour vous? C'est de sensibiliser les fumeurs pour qu'ils arrêtent de fumer dans l'absolu, ou c'est déjà qu'ils commencent par mettre leur mégot dans une poubelle?
Pour nous, le message, il est vraiment autour du mégot dans la poubelle. Et ça, pour moi, c'est vraiment le message le plus fort, c'est de se dire c'est un geste un peu anodin, mais comment est-ce qu'à travers le momentum médiatique qu'on peut essayer de créer, on peut à la fois sensibiliser, essayer de changer les comportements.
Derrière l'événement lui-même, qui, je le rappelle, aura lieu le 31 mai et qui est bien évidemment de courte durée, est-ce que vous allez d'une manière ou d'une autre pérenniser vos actions, votre sensibilisation à ce sujet-là du déchet, une fois de plus, que représente le mégot?
Alors tout à fait, on a créé une association qui s'appelle Zéro Mégot, dont l'objectif est, c'est un peu ce que vous disiez, créer un momentum médiatique sur cette thématique. Et en même temps, le but derrière, ça va être potentiellement d'alimenter une communauté pour essayer d'influer la loi, pour qu'il y ait un système, en fait, pour pousser les cigarettiers à l'éco-conception.
Et la loi, en quoi est-ce qu'elle pourrait changer, très concrètement?
La loi, on est à un moment intéressant en France, parce qu'il y a ce qui s'appelle une REP qui va être lancée, donc une responsabilité élargie du producteur. Donc très bientôt, les cigarettiers vont devoir payer une taxe pour assurer la collecte des mégots. ce qui va se passer en France prochainement va être répliqué à l'échelle européenne en 2025. Donc, à nous de faire les choses intelligemment pour qu'en miroir, d'autres pays puissent s'inspirer des bonnes pratiques chez nous et puis essayer de limiter cette pollution chimique causée par les mégots de cigarettes.
Alors Mathieu, il nous reste une minute, mais rapidement, vous allez bien évidemment participer, hein, c'est aussi la raison de votre présence dans ce studio ce matin, au Festival Chiloé, qui, je le rappelle, a lieu ce week-end à la Fondation Good Planet. Quel va être l'objet de votre intervention? Qu'est-ce que vous allez y dire?
Alors je vais participer à une table ronde qui s'appelle l'aventure, oui, mais pas que pour sa gueule, avec deux autres éco-aventurières, donc le projet Azur et Violette Duval. Et l'objectif, ça va être de montrer comment chacun, à travers nos aventures respectives, on peut essayer de porter des messages qui nous dépassent finalement. Et ce sera le samedi à 16h pour ceux qui sont curieux.
Et donc très concrètement, c'est autour entre autres de l'éco-responsabilité dans la nature, dans l'aventure, le voyage, etc.
Exactement. Alors c'est pas que forcément porter environnement. Il y a aussi du coup Violette Duval, c'est à travers son expérience personnelle et la maladie qu'elle a eue. Et donc c'est vraiment vivre l'aventure au service d'un message, finalement.
Alors, Pauline Levexier, qui est, je le rappelle, responsable communication et marketing chez Chiloé, a oublié tout à l'heure de préciser quelque chose de très important concernant ce festival. Quel est cet oubli, Pauline?
J'ai même oublié deux éléments importants. Quand vous m'avez demandé un peu le programme du festival, je vous ai fait tout par le menu et j'ai oublié de préciser qu'il y aura aussi des siestes électroniques et des DJ sets et qu'on pourra évidemment écouter du très bon son à la Fondation Good Planet. Et effectivement, c'est ce week-end, c'est gratuit, mais c'est sur inscription. Et pour vous inscrire, direction chiloé.com pour retrouver toutes les infos et vous inscrire.
Et je me permets d'ajouter, ce qui n'a pas de prix, c'est qu'il y a une famille d'écureuils en ce moment qui déambule dans la fondation, donc les petits comme les grands, je pense, pourront faire plaisir visuellement.
Donc vous l'aurez compris, foncez voir les écureuils à la Fondation Good Planet ce week-end. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite sur Vivre FM.
Bonjour la planète, Laura Jane Gauthier.
Bienvenue sur Vivre FM, nous poursuivons nos échanges. Alors j'ai toujours à mes côtés en studio Pauline Levexier et Mathieu Vitfoot. Merci d'ailleurs infiniment d'avoir répondu à mes questions. Restez avec nous puisque nous accueillons maintenant Jonathan Ouarégave. Vous êtes responsable des relations presse de la Fondation Good Planet et fondateur de Merci pour l'Info Joe, une chaîne YouTube de vulgarisation des enjeux écologiques. Alors Jonathan, de quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui? Je crois que vous avez un chiffre à nous livrer.
Tout à fait, Laura Jane, le chiffre 68, pas 67, ni 69, 68, Laura Jane. Pour comprendre ce chiffre, je vous propose une petite expérience, si vous êtes d'accord, dans les studios. Je vais vous demander de fermer les yeux et de n'écouter que le son de ma voix. Imaginez maintenant un monde avec 68% de la population en moins. Un monde sans Américains, sans Latino-Américains, plus d'Africains, ni même de Chinois. Vous seriez meurtri, isolé, triste.
Je confirme.
Ce serait le chaos civilisationnel. C'est exactement ce que la biodiversité terrestre est en train de vivre d'après le dernier rapport Planète Vivante 2020, publié jeudi dernier par l'ONG WWF. Oui, car en seulement 40 ans, on assiste à un déclin de 68% des populations de vertébrés.
Les
vertébrés, les mammifères, les oiseaux, les poissons, les amphibiens, et j'en passe, Laura Jane. La vie sur Terre est menacée, et la faute à qui? Je vous pose la question. À l'homo sapiens et à son activité effrénée. La perte de notre riche biodiversité, qui nous donne tant de notre assiette à notre imaginaire, s'explique par la destruction des habitats liés à l'agriculture industrielle et l'urbanisation massive. Pour saler davantage la note, le dérèglement climatique pourrait devenir la cause majeure de disparition des espèces. Et je refuse de payer cette addition, Laura Jane, c'est trop cher. Je veux quitter le studio.
Oh bah non, mais Jonathan, restez avec nous, ne partez pas.
Très bien, rattrapez-moi. Bon, d'accord, mais comprenez-moi tout de même, surtout quand on sait que la pression qu'on exerce sur la nature avec nos modes de consommation est à l'origine du Covid-19, en partie, et que la sécurité alimentaire est menacée car elle repose sur un grand nombre d'espèces sauvages et cultivées. Bref, tout fout le camp, je vous le dis, mais il y a une lueur d'espoir, et oui, parce qu'on a des solutions à portée de main. Manger moins de viande, lutter contre le gaspillage alimentaire ou encore privilégier les aliments issus de productions sans pesticides. Et comme se plie à le répéter le photographe, réalisateur et président de notre chère Fondation Good Planet, Yann Arthus Bertrand, il est trop tard pour être pessimiste. Et parce que choisir, c'est renoncer, choisissons de mettre la nature et la biodiversité au centre de notre futur, car si elle peut faire sans nous, nous ne pourrons certainement pas composer sans elle.
Alors, on va être un peu plus léger, hein, Jonathan, puisque je crois que vous allez maintenant nous faire un petit point météo.
Oui, il fait chaud, il fait même très chaud, Laura Jen, et c'est pas que dans les studios d'ailleurs, c'est aussi à l'extérieur, on le sent bien, on est bien au-dessus des normales saisonnières, il n'y a plus de saison. Quoi de mieux dans ces circonstances que de manifester nu? Oui, sans chemise, sans pantalon, et je vous sens inquiète là.
Non, je me demande juste si vous voulez vous mettre nu dans le studio, ce qui effectivement du coup peut générer une petite inquiétude. Ouais.
C'est pourtant une actu chaude, même brûlante, j'ai envie de dire. Dimanche dernier, à Rennes, une cinquantaine de naturistes déterminés ont fait le tour de Rennes à vélo.
Mais alors là, vous me rassurez pas totalement. Est-ce que vous confondez pas avec le Tour de France?
Non, je vous rassure, le Tour de France n'a pas mal tourné. Il s'agit bel et bien de cyclistes bretons nus, des cyclo-nus pour faire simple. Soucieux de l'avenir de notre planète et de la leur aussi d'ailleurs, qui ont entrepris une promenade revendicatrice sur leur selle tout autour de la ville. Stop écocide, love, pas de climat, pas de chocolat, autant de messages que les Rennais pouvaient lire sur les corps badigeonnés des cyclistes dans leur plus simple appareil et masqué. C'est déjà ça. En effet, ces cycles nus avaient pour ambition de porter un message au nom de la vulnérabilité des cyclistes, mais aussi et surtout d'alerter sur l'urgence climatique. Avec les 38 degrés, je ne sais pas faire l'accent breton, hein, mais je m'y emploie. Avec les 38 degrés au cercle article, les incendies partout, on ne peut pas continuer. Au-delà de la planète, c'est l'humain qui est en danger, déclarait Jean-François Feuton, co-organisateur de la manifestation. Une boucle de 14 km, un concert de sonnettes, une peau rougissante sous un soleil de plomb, nos cyclistes bretons ont été bien courageux et ont su incarner de manière singulière et allégorique la lutte contre le dérèglement climatique. Et si la préfecture de Rennes a autorisé la Fédération française de naturisme à organiser un tel rassemblement, les cycles nus ont essuyé toutefois un espoir déçu à Lyon et à Paris dimanche dernier.
Merci pour cette actu très très chaude. Alors, étant donné que vous avez fini sur le sujet, vous pouvez remettre votre t-shirt maintenant, Jonathan.
C'est chose faite, Laura Jen.
Vous souhaitiez terminer en parlant de musique.
La 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 la. Est-ce que vous reconnaissez... Alors oui, je sais que c'est très gênant, je n'ai pas du tout la fibre musicale, mais est-ce que vous reconnaissez cet air, Laura Jen, et d'ailleurs Pauline et Mathieu?
Alors pour moi, il s'agit d'Harry Potter. Mes références...
On est proche, mais pas du tout. C'est pas du tout ça. On est sur du Tchaïkovski. C'est un grand classique, hein, je pense, au Lac des Cygnes. Mais exactement, j'ai envie de dire quand même bravo. Quelle oreille musicale! Il s'agit bien d'un incontournable de la musique classique. Mais pourquoi se limiter au doux son gênant de ma voix quand on peut faire l'expérience d'un concert de qualité avec ses beaux-parents, dans des conditions sanitaires optimales, bien sûr?
Bien sûr.
Non, le Covid-19 n'arrivera pas à bout de notre soif de sortie culturelle. C'est la raison pour laquelle je vous propose une sortie de qualité. À vos agendas, la Fondation Good Planet vous donne rendez-vous à 20h le samedi 3 octobre dans la mythique scène musicale de Boulogne sur l'île Seguin. Prenez place et laissez-vous, bien sûr, envoûter par le répertoire d'une vingtaine de musiciens classiques et jazz de renom, du violoncelliste Christian-Pierre Lamarca, la flûtiste Magali Monnier, sans oublier les illustres compositeurs Armand Amar et Yvan Cassar. Et de la pop, oui, il y en aura, avec Christophe Willem, il est toujours là, bien sûr. Et le fantôme de Tchaïkovski sera là aussi, puisqu'il accompagnera un duo de danseurs de l'Opéra Garnier pour nous offrir un acte du Lac des Cygnes. La boucle est bouclée. Après le succès de sa première édition, le Concert pour la Planète revient donc avec l'ambition de proposer un concert d'exception pour les fins mélomanes que vous êtes. Et est-ce que j'ai dit Concert pour la Planète?
Absolument.
Oui, parce que ça s'appelle quand même Bonjour pour la Planète, donc faut faire ce lien avec ce fameux concert. Oui, parce qu'on peut écouter de la bonne musique en famille, dans une salle prestigieuse, tout en œuvrant modestement pour notre planète fragilisée. Tous les bénéfices seront reversés en effet à la Fondation Good Planet, pour soutenir un projet d'agroforesterie en Amazonie équatorienne, durement touché par les incendies en 2019, puis par la pandémie cette année, comme vous le savez. Et ainsi, en prenant la décision d'assister à ce concert unique, une partie de votre billet permettra de soutenir une communauté d'agriculteurs soucieux de la préservation de leur écosystème, en leur donnant les moyens de poursuivre leurs actions de reforestation et d'agroforesterie, toujours là aussi dans des conditions sanitaires optimales. Pour réserver votre billet, rien de plus simple, je vous donne rendez-vous sur le site goodplanet.org. C'est tout pour moi, je vous dis à la semaine prochaine, mais en attendant de vous retrouver, je vous laisse quand même méditer sur une citation du rappeur Nekfeu : « La terre-mère étouffe sous la saleté de ses fils ».
Merci infiniment, Jonathan Ouarégave. Si on m'avait dit qu'un jour j'animerais une émission où on terminerait sur une citation de Nekfeu, comme quoi tout est possible dans la vie, ne perdez pas espoir. Merci infiniment, Pauline Levexier. Merci infiniment, Mathieu Vitefoot. On se retrouve dans 2 semaines, même jour, même heure. Et surtout, n'oubliez pas d'aller faire un tour au festival Chiloé. Très belle journée à tous.
Bonjour la planète. Laura Jane Gauthier.